Le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Irlande, le gouvernement a choisi le 8 mars pour faire voter ses habitants sur deux articles de la Constitution qui visent la place des femmes dans la famille. Ils sont soumis à référendum.
Cependant qu'en Argentine, les mouvements féministes appellent à la grève et au rassemblement après les propos provocateurs et rétrogrades de Javier Milei sur l'avortement.
En France, nous nous pencherons sur le bilan du pôle Cold Case du tribunal judiciaire de Nanterre. Après 2 ans d'existence, il a ouvert 77 informations judiciaires. Et puis après le journal Marguerite Caton, une nouvelle question du jour.
Oui, nous découvrirons quels sont les mécanismes de l'emprise.
La date a été choisie à dessein en Irlande. Les habitants se rendent aux urnes en cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes pour un référendum en 2 parties qui vise à changer la Constitution. Précisément, ces articles qui concernent la place de la femme dans la famille. Le texte fondamental irlandais, adopté en 1937 alors que l'Église catholique étendait encore son empire jusque dans la vie privée, fait toujours référence au devoir des femmes au foyer. La première question posée aux Irlandais concerne donc la définition de la famille et propose de l'élargir au-delà de celle fondée sur le mariage. La seconde question propose d'effacer une référence au rôle de la femme qui suggère qu'elle a le devoir de prendre soin des autres personnes sous son toit. C'est donc aussi l'occasion de reconnaître le rôle des aidants. La correspondance en Irlande de Clémence Pénard.
Lindsay est la maman d'un jeune homme quadriplégique.
C'est parfois épuisant. C'est un job 24 heures sur 24. Mais cela n'enlève rien au fait que j'aime profondément mon fils Jack. Mais être valorisé, pris en compte, j'estime que c'est un droit fondamental pour tout citoyen irlandais.
Le souhait de Lindsay est simple. Elle voudrait que son rôle d'aidante soit enfin reconnu par l'État. L'idée du référendum est de reformuler l'article qui fait référence au devoir des femmes à la maison. Un texte des années 30 qui reflète la forte influence de l'Église dans le pays. Si le oui l'emporte, il pourra être remplacé par une reconnaissance de la contribution des aidants, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes d'ailleurs. Rachel Coyle du Conseil national des femmes en Irlande.
Les Irlandais ont protesté contre cet article dès qu'il a été inséré dans la Constitution et nous n'avons jamais cessé de nous y opposer. Nous voulons enfin changer cette vision restreinte et dépassée du rôle des femmes parce que depuis ce texte, l'Irlande s'est considérablement transformée.
Un deuxième volet du référendum pourrait étendre la définition de la famille au-delà du mariage. Claire O'Connell est membre de l'Alliance des parents LGBT+.
Voter oui permettra d'avoir une définition plus inclusive. Elle reste à définir, mais on pourrait parler de relations durables plutôt que de couples mariés.
Après l'avortement et le mariage gay, un double oui au référendum irait dans le sens de la libéralisation de la société irlandaise.
À l'inverse, un autre pays développé pourrait voir le droit des femmes régresser à court terme. L'Argentine, dont le président ultralibéral d'extrême droite a lancé le 1er 8 mars de son mandat en tenant des propos hyper rétrogrades sur l'avortement. Des déclarations provocatrices dans la droite ligne du style qu'il cultive, mais ces provocations sont dangereuses, estiment les mouvements et associations féministes argentines, qui annoncent une grève et une manifestation massive dans tout le pays aujourd'hui. Sur place, le récit de notre correspondante Caroline Vic.
En visite dans son ancien collège à Buenos Aires, Javier Milei a donné cette semaine un discours dans lequel, comme à son habitude, il s'en est pris à ce qu'il appelle la caste politique et aux féministes. Javier Milei.
Ce que font les hommes politiques, c'est s'endetter et laisser la facture aux générations futures et même à celles qui ne sont pas encore nées. Certains essayent d'ailleurs de les tuer avant la naissance. Je parle des assassins au foulard vert. Vous savez que pour moi, l'avortement est un meurtre aggravé en raison du lien entre la mère et l'enfant. Et ça, je peux le démontrer d'un point de vue mathématique, philosophique, libéral et bien sûr biologique.
Pour Lula, professeur et volontaire de l'association Réseau de secouristes accompagnant les femmes qui avortent, les propos du président ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Lula.
On est toujours en état d'alerte. Ce que dit le président, c'est une provocation constante. Désigner les mouvements féministes comme un ennemi public intérieur, c'est une pratique autoritaire et fasciste qui a déjà eu lieu en Argentine pendant la dictature. L'idée est que tout ce bruit généré par ces déclarations couvre celui de la tronçonneuse. Mais nous, on sait bien ce que ce gouvernement engendre. C'est de la faim, de la pauvreté, des inégalités et de la violence.
Aujourd'hui, les féministes protesteront contre la crise alimentaire et l'ajustement et pour la défense du droit à avorter. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que la journée de travail des manifestantes serait déduite de leur salaire.
Caroline Vic. Et puis c'est un chiffre peu encourageant. Plus de 230 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui dans le monde ont été excisées ou pire, un chiffre en forte hausse malgré des progrès dans certains pays. Un nombre plus grand que jamais selon l'auteur principal d'un rapport de l'UNICEF sur le sujet. C'est 15% de plus qu'en 2016 en effet. Ces mutilations, douloureuses, parfois mortelles, ont aussi des conséquences psychologiques et physiques à long terme. L'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 144 millions de survivantes de ces mutilations. Devant l'Asie, 80 millions, et le Moyen-Orient, 6 millions. Ce nombre total est en hausse en grande partie du fait de la croissance de la population dans ces pays.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. À Gaza, alors que la famine menace, un pont humanitaire maritime pourrait se mettre en place.
Car force est de constater que l'aide humanitaire ne parvient pas aux 300 000 Gazaouis restés au nord. Par ailleurs, le massacre de la farine, cette émeute qui a tourné au drame il y a plus d'une semaine avec la mort de plus de 100 Palestiniens sous les balles de soldats israéliens lors d'une distribution alimentaire, a conduit la communauté internationale à réfléchir à d'autres moyens d'acheminer cette aide. Enfin, les pourparlers pour un cessez-le-feu ont peu de chances d'aboutir avant le ramadan qui commence dimanche ou lundi. Ce qui a conduit le président américain Joe Biden à annoncer cette nuit dans son discours sur l'état de l'Union que l'armée américaine allait construire un port temporaire au large de Gaza. Les précisions de Thibault Lefèvre.
Il y a la terre avec des convois d'aide humanitaire pas assez nombreux et pour certains attaqués ou détournés. Il y a les airs avec des parachutages de nourriture là aussi en trop faible quantité. Et il pourrait désormais y avoir la mer avec donc l'annonce de cette mission d'urgence américaine en coordination avec l'allié israélien pour installer dans les prochaines semaines un port artificiel transportable dans les eaux territoriales de Gaza. Concrètement, l'aide humanitaire partirait en bateau de Larnaca à Chypre. Elle serait déchargée 300 km plus au sud sur les quais de cette structure en kit. Une fois opérationnel, des centaines de camions par jour pourraient alors ravitailler l'enclave en passant par une jetée flottante. Cette solution technique présente deux avantages. Donner la possibilité à des bateaux de débarquer de grandes quantités de marchandises en eau profonde, ce qui est aujourd'hui impossible à Gaza, et puis permettre aux Américains d'acheminer de l'aide sans pour autant obliger leur armée à intervenir au sol. La principale limite de l'initiative, c'est le temps. La population du nord de Gaza meurt de faim et elle ne peut pas attendre plusieurs semaines pour être nourrie.
Le président américain qui s'est montré très offensif dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Joe Biden s'en est pris à son rival, Donald Trump, dès les premières minutes, l'accusant de se soumettre à Vladimir Poutine et affirmant que la liberté et la démocratie étaient attaquées par lui en Amérique. Joe Biden qui a assuré que son pays connaissait sous sa présidence le plus grand rebond économique de son histoire, a juré qu'il ne diaboliserait pas les migrants et promis de rétablir la garantie fédérale du droit à l'avortement s'il était élu. En France, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a annoncé hier l'affectation prochaine d'un quatrième juge d'instruction au pôle Cold Case du tribunal judiciaire de Nanterre. Ce pôle est une juridiction spécialisée dans les dossiers en souffrance. Il répond à une forte attente sociale et faisait hier le bilan de ses deux années d'existence. Au total, 77 informations judiciaires ont été ouvertes et 7 affaires ont évolué après parfois plusieurs décennies d'immobilisme. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
5 personnes ont été mises en examen par le pôle Cold Case. Dans l'affaire Caroline Marcel, par exemple, cette joggeuse tuée dans le Loiret en 2008. Une affaire a également été résolue avec une découverte de corps et un mis en cause décédé. Enfin, il y a eu une condamnation définitive, celle de Monique Olivier, pour complicité dans 3 crimes commis par le tueur en série Michel Fourniret. Pour les familles de victimes d'affaires non résolues, les espoirs sont aujourd'hui permis. Annick Barbeau est présidente de l'association des disparus de Fort Amiens. Elle représente Jean-Christophe Morin, son fils, disparu en 2011 en Savoie pendant un festival de musique électronique, et Ahmed Amadou, disparu lui aussi un an plus tard dans ce même festival. Pour elle, le Paul Cold Case a tout changé.
Sur Chambéry, il n'y avait rien eu pratiquement pendant 4 ans. Quand on nous a reçus la dernière fois, c'est parce qu'on a manifesté devant, sinon on n'aurait pas été reçus à Chambéry. Par contre, au Pôle, on a été entendus. Il y a eu des recherches de fait à l'initiative du Pôle. Et c'est là qu'ils ont retrouvé des vêtements qui sont en cours d'analyse, en fait.
Mais les espoirs sont aussi parfois déçus, car les dossiers pris en charge sont passés au peigne fin. Il faut que l'acte commis soit un crime avec un caractère complexe. Pour les disparitions, il faut qu'elles soient suspectes ou que le pôle de Nanterre soupçonne l'existence d'un tueur en série.
Autre innovation judiciaire de ce pôle Cold Case, la création des parcours criminels. Concrètement, les détails de la vie de 11 personnes soupçonnées d'avoir agi en série font actuellement l'objet d'une enquête. Écoutez le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, nous dessiner le fonctionnement de ce nouveau principe d'enquête.
Le parcours criminel, à la différence de la manière dont on travaille habituellement, il prend, je dirais, le problème à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de partir de fait, d'un fait isolé, eh bien là, on va identifier une personne qui était soit condamnée, soit mise en cause dans une autre procédure, par exemple mise en examen, et pour laquelle on peut penser qu'il y a une potentielle sérialité. Et donc dans ces hypothèses-là, les investigations vont porter uniquement sur le parcours de vie de la personne. La personne ne sera pas entendue comme mise en cause ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, les investigations vont porter sur le parcours de vie de la personne, donc le parcours professionnel, le parcours personnel, le parcours judiciaire aussi, pour récupérer l'ensemble des éléments judiciaires dont nous disposons sur elle. Et avec ces éléments qui ont été recueillis, on va essayer d'identifier si on peut faire une connexion avec des faits qui eux-mêmes font l'objet d'autres procédures, que ce soit au pôle ou à l'extérieur du pôle. Et les éléments ainsi obtenus seront transmis à ce moment-là dans les dossiers qui sont soit au pôle, soit à l'extérieur du pôle, pour nourrir ces dossiers et essayer de vérifier cette piste.
Un dossier signé Anne Fauquemberg. Ils ont été délogés des quais de Seine à Paris, voici deux jours, et aucune solution d'hébergement d'urgence n'a été trouvée pour 200 des 420 personnes sans-abri qui avaient installé leur tente sous les ponts de la capitale. La préfecture de police justifie ces évacuations par des risques de crue. Les associations, elles, y voient un nettoyage social en amont des Jeux Olympiques. Mathieu Laurent a joint Paul Allozy, coordinateur à Médecins du Monde et porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille, qui regroupe plus de 80 associations et ONG. Écoutez-le.
La ville de Paris et même la préfecture de police avaient demandé à la préfecture de région qu'il y ait une mise à l'abri de ces personnes sans-abri au bord de la Seine, et la préfecture de région a refusé. Donc en fait, là, on est devant un cas soit d'incompétence, soit de maltraitance, mais qui est vraiment organisé par l'État, et c'est navrant. Personne ne mérite d'être accueilli sur les trottoirs. Il y a un budget de 9 milliards pour les JO, on est la 7e puissance mondiale, et on laisse des jeunes errer sous les ponts, se faire chasser par les forces de l'ordre. C'est complètement indigne de la France. Cet événement, il n'est pas isolé. Il fait partie d'une stratégie long terme qui s'est accélérée dans les derniers mois de nettoyage social. En ce moment, vous avez 3500 personnes à la rue dans Paris intramuros, et il y en a un millier à peu près en gymnase. Donc il y a 4500 personnes auxquelles il faudrait apporter de vraies solutions. L'État ne prévoit que 200 places pendant les Jeux. C'est pas une solution. La seule chose qui est prévue, apparemment, c'est ce genre d'opération. On pose un arrêté, on dégage les gens, on les harcèle toute la nuit, on les laisse pas se reposer. C'est une manière de les faire partir, de les décourager, de dire aux autres de ne pas venir, et ça permettra, selon eux, de résoudre les problèmes et de présenter une ville brillante et propre de toutes les personnes que eux jugent indésirables devant les caméras du monde entier.
Paul Allozy de Médecins du Monde. Il avait créé l'un des personnages de manga les plus célèbres en France, le prodige des arts martiaux, Son Goku, le mangaka japonais Akira Toriyama, créateur notamment des séries Dragon Ball et Dr. Slump, est décédé à l'âge de 68 ans d'un hématome sous-dural. C'est ce qu'annonce son éditeur une semaine après sa mort. Dragon Ball, créé en 1984, librement inspiré du roman chinois du 16e siècle, La Pérégrination vers l'Ouest, il s'est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde et engendré de nombreuses adaptations à la télévision, au cinéma ou en jeu vidéo. On reviendra sur son œuvre dans le journal de 8 heures. Un mot du temps de ce vendredi. Alternance de nuages et d'éclaircies au nord. Le ciel sera plus perturbé au sud de la Seine. Dans le sud-ouest, risque d'orages. Les températures matinales de 0 à 5 degrés sur le nord, 4 à 9 au sud. Les maximales seront proches de 11 à 15 degrés avec jusqu'à 19 en Roussillon et près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des matins avec vous, Guillaume Erner.
Merci, Anne-Laure Chouin.